Les ultras retroussent leurs manches. Les ultras, le retour. La démission de Decazes leur ouvre une voie royale. La Chambre élue en 1821 est majoritairement royaliste. Le comte de Villèle, le Toulousain plus royaliste que le roi, est nommé Premier ministre. 1824, nouvelles élections. La majorité royaliste y est écrasante. Il ne reste plus qu'une quinzaine de libéraux. C'est une chambre introuvable bis, la chambre retrouvée. Villèle et ses proches, depuis 1821, retroussent leurs manches. La répression est active. Les sociétés secrètes, les comploteurs sont arrêtés, jugés et condamnés. Quatre jeunes sergents de La Rochelle, par exemple, Boriès, Goubin, Pommier et Raoult, qui, appartenant à la société secrète de la charbonnerie, composée de républicains, de bonapartistes, de libéraux, n'ont pas voulu dénoncer leur chef. Le 21 septembre 1822, ils sont exécutés en place de grève, devant une foule muette qui admire leur courage.
Marie-Caroline, duchesse de Berry. Parce qu'il ne reste plus de descendants mâles de la branche aînée des Bourbons, et que ce sont les Orléans qui risquent de monter sur le trône, Louis XVIII a décidé de marier son neveu, qui est le fils du futur Charles X, le duc de Berry, à Marie-Caroline de Naples, qui appartient à la famille des Bourbons-Sicile et descend, par sa mère, de la maison des Habsbourg. La rencontre entre Marie-Caroline et le duc de Berry a lieu en forêt de Fontainebleau, au carrefour de la Croix Saint-Hérem. Marie-Caroline est belle, pleine de grâce et de légèreté, elle séduit tous ceux qui l'approchent. Et ce jour de juin 1816, lorsque, délaissant tout protocole, elle court se jeter aux pieds du roi et du duc de Berry, les témoins de cette rencontre sont à la fois attendris et conquis par celle qui pourrait devenir reine de France. Le 17 juin 1816 a lieu le mariage dans la cathédrale Notre-Dame. 36 carrosses dorées, décorées de plumes, prennent ensuite la direction des Tuileries. C'est le bonheur. Marie-Caroline rayonne. Elle conquiert bientôt le cœur de la France entière. La tragédie du 13 février 1820 la jette dans l'ombre jusqu'en 1832, où elle tente de revenir sur la scène politique pour assurer l'avenir de son fils, le comte de Chambord. Après avoir débarqué dans des conditions difficiles à Marseille, elle rejoint la Vendée, où elle espère rallier de nombreux partisans. Mais les temps ont changé, ils ne se manifestent guère. Entrée dans la clandestinité, elle vit en nomade, de château en château, de ferme pauvre en grange à foin. Elle se réfugie enfin dans une soupente à Nantes, où, trahie, elle est arrêtée, puis conduite en détention à Blaye. Déshonorée parce que mère, en 1833, d'une fille de père inconnu, elle est privée d'avenir politique. Elle meurt en 1870.